D'autres regards sur la crise. On avait pris le parti dans cette série de ne pas donner la priorité aux économistes. On n'en a pas entendu beaucoup depuis le début, aucun d'ailleurs. Exception donc aujourd'hui pour montrer d'abord qu'on n'est pas sectaire, mais aussi parce que notre invité n'est pas seulement un économiste, un spécialiste, professeur de sciences économiques, mais aussi un épistémologue, un philosophe de l'économie, Christian Arnsperger. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu spécialement de Bruxelles. Vous êtes chercheur au Fonds national de la recherche scientifique donc de Belgique. Vous êtes également professeur à l'Université catholique de Louvain. Et voilà donc que vous nous dites, monsieur Arnsperger, que nous assistons à ce que vous appelez une crise existentielle du capitalisme. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors, j'ai envie de dire, en gros, on ne peut pas se passer de l'économie, mais on peut et on va devoir se passer du capitalisme. C'est-à-dire que c'est une crise existentielle de l'économie et une crise vraiment essentielle du capitalisme. Le capitalisme est un symptôme, en fait, d'un malaise profond. J'ai envie de dire, la crise existentielle de l'économie à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est qu'il y a une crise de confiance, mais je pense qu'il ne faut pas mal placer la confiance. C'est vrai, comme disent les dirigeants, qu'il y a une crise de confiance. Les gens ne consomment plus, on a tendance à ralentir l'accumulation, l'investissement, etc. Mais moi, j'ai envie de dire, dans mes propres travaux de recherche en philo de l'économie, ce qui ressort, c'est que c'est en fait la consommation et l'investissement et l'accumulation capitaliste que l'on cherche à relancer, qui sont elles-mêmes un symptôme de manque de confiance fondamentale dans la vie et dans l'avenir.
Alors pourquoi on a ce manque de confiance ?
Alors on a ce manque de confiance parce qu'on est humain. On est humain et on est occidentaux. Alors ça veut dire qu'on a construit pendant des siècles une culture basée sur le remplissage matériel et symbolique aussi d'un vide existentiel profond et qui nous fait progressivement prendre les biens matériels, mais aussi les images, les idées, pour ce que j'appellerais des biens spirituels. Et du coup, on fait mine d'avoir confiance dans la vie, en accumulant, en consommant, alors qu'en fait, cette accumulation et cette consommation sont radicalement des manques de confiance dans l'avenir et dans la vie même.
Bon, c'est la consommation qui comble ces manques,
voilà,
mais pourquoi est-ce que ça ne marche plus aujourd'hui, ce système ?
Alors pourquoi ça ne marche plus aujourd'hui ? Eh bien parce qu'il y a eu en effet une crise financière qui a été déclenchée par la logique même du système capitaliste. Alors on incrimine beaucoup la cupidité des banquiers, c'est certainement vrai. La trop grande rapacité de certains actionnaires, c'est certainement vrai. Mais je dirais au-delà de ça, il y a toute une logique de l'accès aux biens par le marché qui est mise en cause parce qu'on s'est fondé sur le crédit. Le crédit repose sur une espèce de peur de l'avenir et une projection aussi dans l'avenir. Et ce mécanisme s'est grippé, ne marche plus. Et donc, on n'arrive plus à dégager les ressources, le flux financier nécessaire pour pouvoir consommer, accumuler.
La question du jour, c'est de savoir combien cette crise va durer, enfin du jour, quand je dis ça au sens large. Est-ce que c'est quelques mois ? Est-ce que c'est plusieurs années ? On entendait le débat tout à l'heure que rapportait Jean-Claude Pajac, récession, dépression. Surtout, finalement, la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que tout peut maintenant repartir comme avant, selon vous ?
Alors,
qu'on est simplement dans un trou et qu'on va repartir.
Pour être très clair, je ne suis pas prévisionniste, donc je ne vais pas vous donner le dernier état des prévisions pour savoir si ça va durer un mois, deux mois, six mois, un an, cinq ans. Je n'en sais rien, je vous avoue. Et je pense d'ailleurs qu'on ne peut pas le savoir. Parce que le capitalisme est devenu tellement complexe au sens scientifique du terme que c'est extrêmement difficile, voire impossible à prévoir. Bon, alors, est-ce que ça peut recommencer comme avant ? Je le crains, si vous voulez. Parce que nos décideurs politiques et économiques, à raison, à très court terme, se sont précipités dans des mesures de relance. Bon, est-ce qu'elles sont suffisantes ? C'est une question, mais en tout cas, elles pourraient marcher. Et alors, je pense qu'on raterait en fait une opportunité. C'est peut-être un peu triste à dire, mais souvent, les crises dans l'existence d'un être humain sont des opportunités à la fois de souffrir et de changer fondamentalement des choses. Alors ici, je crains, si vous voulez,
que les plans de relance marchent.
voilà, pour le dire un peu paradoxalement, oui, en effet. Et du coup, on aurait manqué une opportunité.
Cela dit, il faut voir que le système s'était lui-même enrayé, comme vous l'avez dit, de manière existentielle, essentielle, profonde. Est-ce qu'il est imaginable que rien n'ait vraiment évolué et qu'on reparte sans que les symptômes réapparaissent tout de suite ?
Ah non, ils vont réapparaître. C'est-à-dire que je pense qu'on a le choix entre deux remèdes. Hein. Un remède choc qui consiste à administrer à la machine économique un antibiotique tel que le virus endémique soit éradiqué. Mais alors, on sort du capitalisme. ou bien...
C'est-à-dire, alors, vous précisez...
Alors, que... on peut peut-être y revenir dans une seconde, mais, ou bien l'autre remède, qui est celui vers lequel on se dirige maintenant, c'est qu'on va donner sous perfusion une espèce de remède épisodique où le virus peut continuer à agir dans l'organisme et va redonner lieu à des rechutes constantes et permanentes, mais que l'on utilisera chaque fois comme prétexte pour une nouvelle relance.
La prochaine bulle, par exemple, ça pourrait être, je sais pas, les emprunts d'État ou
tout ce que vous voulez. Alors là, je ne suis pas assez expert pour vous dire ça, mais il peut y avoir des bulles à tout moment. Ça fait partie de la logique même du système.
Il y a aussi une question qui court. On va revenir à votre solution de la première partie de votre réponse. Oui. Mais aussi, il y a une question qui hante un peu les esprits maintenant. Les États, est-ce que ça peut faire faillite un État et est-ce qu'on peut aller jusque-là?
Alors, est-ce qu'un État peut faire faillite? C'est peu probable, hein, parce que l'État a la capacité, comme l'État est immortel, d'une certaine manière, il a la capacité d'engendrer des emprunts de manière beaucoup plus importante qu'un particulier ou même qu'une entreprise. Mais bon, en principe, oui, on pourrait assister à un scénario où plus personne ne veut des bons d'État américains, par exemple, ou français, ce qui précipiterait vraiment les États dans des catastrophes budgétaires majeures.
Vous écrivez qu'il ne s'agit pas seulement... Je reviens donc au point que vous évoquiez tout à l'heure. Pas seulement de re-réguler le système financier, mais toute la vision que nous avons du sens de notre vie. Alors, c'est un vaste programme.
Exactement,
est-ce que vous pouvez nous en donner des dimensions concrètes, une ou deux?
Alors, je pense qu'il y a deux choses à faire. Hein. Il y a, si vous voulez, d'abord, il faut éviter que nos plans de relance à court terme nous empêchent de réfléchir plus loin. C'est une de mes grandes craintes. Alors, si on accepte de réfléchir plus loin, il y a deux choses essentiellement à faire. D'une part, promouvoir... par l'éducation, par tout le discours, par les médias, comme on le fait en ce moment, une nouvelle vision de l'éthique. Et deuxièmement, très important, promouvoir chez les citoyens que nous sommes un sursaut, je dirais, d'autocritique. Parce que nous sommes tous parties prenantes dans ce système. Il ne faut pas croire qu'il y a des méchants et les gentils. Nous sommes, en tant que consommateurs, investisseurs, rentiers, tout ce que vous voulez, partie prenante dans ce système d'angoisse qui se nie, si vous voulez. Et donc, il faut... Alors, les trois éthiques dont je parle, c'est essentiellement une éthique de la simplicité volontaire, donc un retour vers une convivialité beaucoup plus dépouillée. Deuxième éthique, une démocratisation radicale de nos institutions, y compris économiques, allant jusqu'à la démocratisation des entreprises. Et troisièmement, une éthique de l'égalitarisme profond, allant jusqu'à ce qu'en Belgique on appelle une allocation universelle, c'est-à-dire un revenu inconditionnel de base, versé à tous les citoyens.
Et tout ça ne va pas faire un monde ennuyeux, Christian Hansberger?
Pas du tout. Non, ça fera enfin un monde convivial, débarrassé des compulsions dans lesquelles nous nous empêtrons pour l'instant.
Je vous remercie beaucoup, Christian Hansberger, d'avoir accepté notre invitation. Je signale que vous allez publier prochainement un livre aux éditions du CERF pour reprendre l'ensemble de ce que vous venez de dire. Et puis, on va poursuivre cette conversation plus longuement sur notre site internet.